So after hearing all the relevant evidence,
après avoir étudié toutes les preuves, j'en conclus que personne n'est impliqué dans la mort de Nora Quarin. Il est plus probable qu'elle soit morte suite à une mésaventure, qu'elle ait quitté l'hôtel d'elle-même et se soit perdue dans cette plantation de palmiers abandonnée.
Bonsoir, qu'est-il arrivé à Nora Quarin dans la jungle malaisienne? C'était il y a quasiment 2 ans, au mois d'août 2019, le corps de cette jeune Française de 15 ans était découvert sans vie dans une nature hostile à 2 km de l'hôtel où elle séjournait avec ses parents. L'enquête des autorités locales va très vite, trop vite, conclure à une fugue malencontreuse, à un accident, même si cette hypothèse semblait d'entrer hors de propos. Nora, adolescente craintive et fragile, souffrait d'un handicap qui l'aurait empêché de déambuler seul au cœur de la nuit dans un paysage qui lui était totalement étranger. Ses parents vont remuer ciel et terre pour que les investigations redémarrent et se concentrent sur la piste criminelle, celle d'un enlèvement, d'une séquestration ayant conduit à la mort de leur fille. Ils viennent enfin d'obtenir gain de cause. La thèse de l'accident n'est plus la seule privilégiée par la Malaisie. C'est ce combat, le long combat d'une famille pour la vérité, son espoir que la lumière se fasse sur cette affaire. C'est cette histoire que nous allons raconter ce soir. Nous recevrons le père de Nora, Sébastien Quarin, et nous écouterons son témoignage.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Nora Quarin. À l'été 2019 en Malaisie, des vacances en famille pour cette jeune fille qui va soudain disparaître à la faveur d'une nuit sans lune. Ce samedi 3 août 2019, la famille Quarin débarque à Seremban, une ville de Malaisie à 60 km au sud de la capitale, Kuala Lumpur. Les Quarin, Sébastien, le père de nationalité française, Mehab, la mère irlandaise et leurs 3 enfants, arrivent de Londres où ils travaillent et vivent depuis une vingtaine d'années. Ils ont prévu de séjourner 15 jours dans le pays. Ils vont loger dans une réserve naturelle à l'entrée de la jungle, au pied d'une majestueuse chaîne de collines et de montagnes, le complexe touristique de Dunsun. 7 bungalows qui accueillent toute l'année une vingtaine de personnes, en majorité des randonneurs étrangers. L'endroit est sûr, aucun incident n'a jamais été signalé sur ce site protégé. Il y a même des caméras de vidéosurveillance qui filment les abords du petit complexe. Les Quarin prennent possession de leur logement. La nuit tombe, toute la famille se couche, les enfants dans une chambre, le père et la mère dans l'autre. Première nuit en Malaisie, jusqu'au lendemain matin, dimanche 4 août, 8h, avec des parents décontenancés quand ils viennent réveiller les enfants. Sébastien et Mehab Quarin découvrent avec effroi que Nora, 15 ans, leur fille aînée, n'est plus dans son lit. La fenêtre de la chambre est ouverte alors qu'elle était fermée la veille. Les parents ont un mauvais pressentiment. Ils savent pertinemment que Nora n'a jamais pu partir d'elle-même, fuguée dans l'obscurité. Elle en serait bien incapable. Leur fille souffre d'un handicap mental, une malformation mentale congénitale, l'holoprosencéphalie, qui fait d'elle une fille fragile, timide, introvertie et maladroite. Son expression orale est limitée et elle a parfois même du mal à garder son équilibre. Elle a trébuché en arrivant au bungalow alors que le sentier était pourtant dégagé. Imaginer qu'elle ait pu partir dans la nuit noire sur un sentier non éclairé n'a strictement aucun sens selon tous ceux qui la connaissent. Les parents donnent l'alerte. Avec le personnel du complexe hôtelier, ils fouillent les bungalows, examinent la piscine, arpentent la nature environnante. Pas de traces de Nora. La police arrive sur place malgré la détresse et les explications de Sébastien et Mehab Quarin. Les autorités privilégient la fugue. Elle n'évoque pas un possible geste criminel, un enlèvement. Les recherches pour retrouver Nora vont s'intensifier dans une nature que seuls les autochtones connaissent parfaitement. Impossible de savoir ce qu'il est advenu de cette adolescente sans défense. Perdue, séquestrée, vivante, morte, aucune réponse. Dans les jours qui suivent la disparition de Nora, les alentours du complexe touristique de Dunsun sont passés au crible par les autorités. Les policiers utilisent un chien pour détecter une éventuelle trace. Pas moins de 160 personnes participent aux recherches, des habitants du coin qui connaissent bien la jungle, un milieu hostile dans lequel un étranger perdu ne peut pas survivre très longtemps. Des chamans locaux, les Bomo, Des prêtres chargés des rituels religieux en Malaisie offrent également leur aide. Des plongeurs sondent des points d'eau, un drone militaire et un hélicoptère sont mobilisés pour survoler la région sans résultat probant. La famille de Nora offre 50 000 ringgit malaisiens, un peu plus de 10 000 euros, pour toute information permettant de localiser la disparue. Des appels enregistrés par la mère de Nora sont diffusés par haut-parleurs dans la forêt avec l'espoir que l'adolescente, qui est peut-être terrée dans un coin et apeurée, sorte de sa cachette. Mais c'est le silence qui répond à la voix de cette maman. 6 jours après la disparition, le parquet de Paris ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Seul moyen d'accéder à ce dossier qui concerne une jeune fille qui a la nationalité française. 13 août 2019, après 10 jours d'incessantes recherches, le chef adjoint de la police malaisienne, Mazlan Mansor, annonce qu'un corps a été retrouvé à 2,5 km du complexe hôtelier. Au fond d'un ravin, dans un petit ruisseau, près des chutes de Berenboun, un lieu que les secouristes et enquêteurs avaient pourtant sillonné de long en large. Il s'agit bien de Nora Coirin. Le corps est entièrement dénudée. Sa culotte qu'elle avait gardée pour dormir dans le bungalow alors qu'il faisait très chaud est introuvable. L'autopsie conduite en Malaisie ne détecte pas de traces de coups ou de violence. Juste quelques égratignures superficielles, aucune agression sexuelle n'est alors constatée. Le médecin légiste indique que l'adolescente est décédée des suites d'une hémorragie interne en raison notamment du manque de nourriture et du stress. Le chef de la police, Mohamed Mat Youssop, affirme à son tour, il n'y a aucun soupçon d'acte criminel, les parents peuvent récupérer le corps. Des parents incrédules, comment imaginer que leur fille, après avoir cheminé pieds nus et presque totalement dévêtue sur un sentier difficile et dangereux, ne porte aucune marque, aucune plaie, aucune piqûre de moustique et même pas le moindre coup de soleil. Le 10 septembre 2019, les obsèques de Nora sont célébrées dans la plus stricte intimité à la paroisse Sainte-Brigitte à Belfast, là où elle avait été baptisée. Les cendres de l'adolescente sont déposées au cimetière de Milltown. Personne alors ne sait comment elle est morte. Après la disparition de Nora, la police locale a relevé tardivement plusieurs empreintes de doigts sur les montants de la fenêtre de la chambre où dormait l'adolescente. Il est alors prévu que ces empreintes soient comparées à celles d'une vingtaine de personnes, essentiellement des employés de l'hôtel, recherche vaine. La vidéosurveillance des bâtiments ne donne pas d'indices, les caméras de portée limitée ne semblent n'avoir rien filmé de suspect. Certains villageois indiquent avoir entendu un bruit de moteur, un camion, tôt le matin du dimanche 4 août, mais ces témoignages se révèlent trop flous ou invérifiables. Après 5 mois d'investigation jugée stérile, les autorités décident de classer sans suite le dossier. Elle conclut que Nora a fugué et s'est perdue dans la jungle. À aucun moment, le handicap mental de la jeune victime, elle était incapable de s'éloigner volontairement des siens. Ce handicap n'est pris en cause par les enquêteurs. Les parents protestent. Ils affirment que Nora a sûrement été enlevée. Ils ne vont cesser de s'agiter pour se faire entendre. Ils ont pour cela l'appui d'une fondation britannique d'aide aux victimes, The Lucy Blackman Trust, et de 2 députés français qui alertent l'opinion. 24 août 2020, les parents de Nora obtiennent gain de cause. La Malaisie accepte la réouverture de l'enquête. Ils vont peut-être avoir des réponses aux questions qu'ils ne cessent de se poser. Comment se fait-il que les enquêteurs aient découvert le corps à un endroit déjà fouillé dans les jours précédents, une plantation d'huile de palme abandonnée? Nora était-elle encore vivante quand les secours sont passés dans ce secteur? Puisque le corps de l'adolescente ne porte aucune trace suspecte, cela signifie-t-elle qu'elle a été séquestrée dans une maison et abandonnée ensuite dans la nature? Les investigations progressent à pas compter. Les auditions judiciaires, le plus souvent en visioconférence à cause de la crise sanitaire, se succèdent. 48 témoins interrogés, parmi eux le propriétaire du complexe hôtelier qui admet que la poignée de la fenêtre de la chambre de Nora était défectueuse et qu'on pouvait l'ouvrir facilement depuis l'extérieur. Pas d'élément capital. Le 4 janvier 2021, la juge et directrice d'enquête Maïmouna Haïd rend son verdict. C'est un cruel désaveu pour la famille. La juge écarte l'implication d'un tiers dans la mort de la jeune fille. Elle conclut à ce qu'elle qualifie une mésaventure. Nora serait sortie seule, se serait perdue et aurait fini par succomber. Les parents vont former un recours contre ce jugement qui arrête l'enquête devant la haute cour malaisienne. Seul moyen de faire casser cette décision. Nous continuerons à nous battre pour que l'histoire de Nora soit entendue, indique Mehab Kouarin, la mère de l'adolescente. Ce mercredi 16 juin 2021, le juge Azizul Azmi Adnan de la haute cour de Serenbam rend son verdict dans le dossier Kouarin. Il avait été saisi par les parents de Nora pour la révision du jugement précédent qui avait conclu à une mésaventure, un malheureux accident. Le juge a lancé de nouvelles vérifications au Dunsun Resort, le complexe hôtelier où séjournait la famille franco-irlandaise, et a entendu toutes les parties. Pour la première fois, ce magistrat retient le fait que Nora avait des difficultés psychomotrices, tombées dès lors que le terrain devenait irrégulier. Il admet qu'elle n'était pas une enfant curieuse ou aventureuse. Il exclut catégoriquement la piste de la fugue, considère comme improbable le fait que Nora ait pu se déplacer pieds nus en pleine nuit sur ces sentiers escarpés. Pour le juge, cette mort n'est pas le résultat d'une mésaventure. Il annule donc le verdict précédent et laisse le verdict désormais ouvert, décision qui rend théoriquement possible la relance d'une nouvelle enquête policière. 2 ans après la mort de Nora, sa famille ne sait toujours pas ce qui est arrivé réellement à l'adolescente, même si après bien des vicissitudes, elle a pour la première fois le sentiment d'avoir été enfin entendue et surtout comprise. À la fin de son délibéré, le juge de la haute cour indiquait « Nous n'avons pas été en mesure de vous aider à trouver les réponses que vous cherchiez, mais j'espère vous avoir aidé à vous accompagner sur le long chemin de la guérison. »